because on this day, you became the first world leader to recognize Israel's sovereignty over areas in Judea and Samaria that are vital to our security and central to our heritage.
On vient d'entendre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et il félicitait évidemment les propositions pour, on va mettre paix entre guillemets, Raphaël Jacob, pour la paix au Moyen-Orient, parce que c'est évident que ce que M. Trump a présenté aujourd'hui, bien, ça ne fait pas l'affaire des Palestiniens.
Les Palestiniens étaient-ils présents ou absents?
Selon ce que j'ai lu là, plus tôt dans la journée, ils n'avaient même pas eu la version du plan américain.
Bien, je pense que ça dit tout. Ne serait-ce que d'un point de vue d'optique, de voir cette espèce de point de presse conjoint-là entre le président américain, le premier ministre israélien, alors qu'on est là pour essayer de forger un accord de paix avec un tiers parti qui n'est même pas là, en fait, qui est plus qu'un tiers parti, qui est une des deux parties majeures, qui n'a pas été à la table de négociation, qui n'est pas là pour l'annonce et qui, évidemment, a rejeté ça de façon catégorique. Donc, de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui? Il est question notamment de laisser la vallée du Jourdain à Israël. Il est question de laisser à Israël la possibilité de maintenir Jérusalem de façon presque entièrement intégrale, la capitale de l'État juif. Et on laisserait une petite partie de l'est de Jérusalem aux Palestiniens si jamais ils veulent en faire leur capitale. Donc, évidemment, ça ne plaît pas du côté palestinien. Et ce qui est assez important...
Vas-y. Raphaël, on va s'entendre sur les termes. Ce n'est pas que ça ne leur plaît pas. C'est que c'est inacceptable. Tu comprends? Il y a des factions dans le monde arabe, dans le monde musulman, en Palestine, qui voudraient jeter les Israéliens à la mer. Mais, appelons ça... chez les politiciens mainstream palestiniens, ce qu'on souhaiterait, c'est le retour aux frontières de 67, un partage de Jérusalem. Le plan aujourd'hui, c'est pas ça pantoute. Là. En fait, c'est un plan qui est à l'avantage des Israéliens.
Très net, et qui va beaucoup plus loin même que ça. Et là, ce qu'on a appris, et là je te donne une nouvelle littéralement de la dernière heure, on l'a appris dans les dernières minutes, le cabinet israélien, donc le cabinet essentiellement de M. Netanyahou, voterait dès cette fin de semaine, donc dans les prochains jours, pour essentiellement faire appliquer la souveraineté d'Israël dans tout ce qui est la vallée du Jourdain et à peu près le tiers de la Cisjordanie.
Dans toutes les colonies.
Donc imagine ce que ça peut créer potentiellement comme tension, comme recrudescence de violence. Une fois que ça s'est dit, je vais quand même faire preuve de prudence dans la mesure où il y avait eu beaucoup de prédictions alarmistes quand il y a eu le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ça s'était fait dans une paix entre guillemets relative. Donc, je ne suis pas en train de te dire que ce qui est annoncé aujourd'hui, ce qui risque d'être fait au courant des prochains jours, ça va calmer les tensions. Mais à quel point est-ce que ça va empirer la situation? Il faudra voir. Mentionnons quand même ceci. Évidemment, c'est un document qui est purement politique qui a été présenté et qui a été fait à la fois pour aider M. Netanyahou, qui, on le rappelle, là, pour ceux qui sont peut-être moins friands de politique israélienne, a des sacrées difficultés à la maison, à la fois politique et judiciaire.
C'est un peu comme M. Trump, dans le fond, parce que je pense que M. Netanyahou, là, c'est ça, la dernière nouvelle, c'est qu'il a été inculpé là, pour une affaire criminelle. M. Trump, lui, est dans le trouble, on le sait, avec l'impeachment. Donc, les deux sur la scène domestique sont dans le pétrin.
Exactement. Et se servent de cette alliance-là entre leurs deux gouvernements pour essayer de redorer leur image à la maison. Dans le cas de M. Trump, je mentionne ceci. Il y a aussi une question de politique interne dans la mesure où le Parti démocrate est plus divisé qu'il ne l'était auparavant sur la question israélienne. Son administration, l'administration de Donald Trump est très, très claire, sans équivoque. Plusieurs te diraient justement de façon trop peu nuancée dans le camp d'Israël. Mais on se dit que en étant si clairement rangé dans le camp israélien, ça va exposer des divisions dans le camp démocrate qui est peut-être plus nuancé sur cette question-là et peut-être plus partagé dans ses appuis entre Israël et la Palestine. Autrement dit, un dossier à suivre.
Parfait. On est la première semaine du procès en destitution du président là, et c'est conclu aujourd'hui.
Au septième jour, il se reposa, dit-on.
Pas là.
Il n'y a personne qui se repose. Aujourd'hui, en fait, ça débat très fort, mais ça débat pas en public parce que tout ce qu'on a sur le plancher du Sénat encore aujourd'hui, c'est l'équipe d'avocats de la défense du président qui plaide sa cause. Mais on a à huis clos des débats assez houleux, surtout au sein du caucus républicain au Sénat. Pourquoi? Parce que depuis au moins hier, on est en train de ce qu'on en comprend, de ce qui est rapporté dans les médias majeurs américains, de débattre très sérieusement de la possibilité d'offrir un deal, en bon français, aux démocrates, de dire un témoin contre un témoin. Ça, ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque, mais là, ça commencerait vraiment à être débattu de façon sérieuse au sein des troupes républicaines parce qu'on le sait, les démocrates ne veulent pas lâcher l'os. Ils le veulent, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale du président, sous serment depuis les révélations assez fracassantes de la fin de semaine, comme quoi le président lui aurait dit très clairement, on bloque l'aide américaine à l'Ukraine tant et aussi longtemps que le gouvernement ukrainien ne s'engage pas à enquêter sur Joe et Hunter Biden, ce qui, on le rappelle, pour la énième fois, fait partie en fait intégrale de toute la saga de l'impeachment, qui est à la source de toute la saga de l'impeachment. Et donc, les républicains se disent, s'ils veulent vraiment Bolton, on va leur offrir peut-être, mais en retour, on va obtenir d'eux la possibilité de convoquer Hunter Biden, le fils du vice-président. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Donc, on n'est pas encore là. Et rappelons aussi que du côté démocrate, si jamais les républicains devaient tendre cette espèce de perche-là, il y aurait un calcul qui devrait être fait parce que ce n'est pas tout le monde du côté démocrate qui a nécessairement le goût de mettre potentiellement les Biden ou un des deux Biden sur la sellette. Parce qu'écoute, pour avoir regardé le travail de l'équipe de défense de Trump, surtout depuis hier, on tire à boulets rouges sur Hunter Biden. Ça ne serait pas nécessairement facile pour lui de se défendre dans ce genre de contexte-là, surtout quand, disons-le franchement, Burisma, la firme ukrainienne à laquelle il était affilié, n'a pas l'air d'avoir été l'entité la plus clean au monde, je vais te le dire de façon très conservatrice.
Oui, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que son père l'a aidé à avoir des faveurs ou autre? Puis de ce qu'on voit, la réponse, c'est non. Puis à part de ça, Raphaël... l'administration Trump aurait pu lancer s'il y a eu des malversations d'un citoyen américain à l'étranger, il y a une infrastructure aux États-Unis pour enquêter ça. Pourquoi demander au président ukrainien de le faire en échange d'argent qu'il attend pour se défendre des Russes?
Tu as absolument raison. Je pense jamais je vais nier ça. La question, c'est pas vraiment ça. La question, c'est de savoir politiquement, est-ce qu'on peut occulter, est-ce qu'on peut cacher ça suffisamment en mettant justement le spotlight, le projecteur sur les Biden plutôt que sur le comportement du président. C'est vraiment une question qui se pose. Donc, sur le fond, je ne vais pas débattre avec toi, mais est-ce que ça peut être interprété de façon différente par les gens à la maison qui regardent ça? C'est un calcul, comme je te dis, qui va devoir être fait.
OK, c'est le 28 janvier. Rappelle-nous ce qui s'est passé il y a 34 ans.
Il y a 34 ans a eu lieu quelque chose qui a marqué, je pense, la mémoire collective, incluant la tienne, parce que tu étais assez vieux, quand même jeune, mais assez vieux pour t'en rappeler, c'est-à-dire la tragédie de la navette Challenger. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as des souvenirs précis que tu veux partager.
Je me rappelle de la voix explosée. C'était l'histoire du jour, l'histoire de la semaine, l'histoire de la décennie. Puis ça marquait un accident, appelons ça la conquête de l'espace, là, après des années, disons, de relative sécurité. Oui. Donc ça nous rappelait que ça demeure dangereux.
Absolument. Et je veux qu'on se laisse avec un extrait de ce qui était sans doute un des discours les plus marquants d'un président américain dans un contexte justement de tragédie. C'était le président Reagan qui était en fonction. Donc c'est un discours qui est complètement apolitique, mais qui est vraiment intéressant à écouter, tout au moins un segment. Donc on écoute ça.
We will never forget them. Nor the last time we saw them, this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye and slipped the surly bonds of earth to touch the face of God.
On ne les oubliera jamais, on les a vus ce matin, et maintenant, ils ont touché la face de Dieu.
Comme quoi, wow!
Merci.
Des tournois de France qui frappent plus que d'autres.
C'était un orateur éloquent, M. Reagan. Merci, Raphaël. Au retour, nos chroniqueurs Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween et les accros de la télé.